Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus dans la partie est de la RDC, alerte les organisations humanitaires. En Ituri par exemple, plus de 100 000 personnes ont été nouvellement déplacées en l'espace de quelques mois seulement. Face donc à cette urgence, MSF alerte sur des besoins qui dépassent largement les capacités actuelles. À Kinshasa, nous allons parler de la dérive des agents de contrôle qui arrêtent des véhicules pour expiration des documents leur délivrés il y a seulement quelques mois. Les professionnels des médias ont célébré dimanche 3 mai 2026 la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». À cette occasion, les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont évalué l'exercice de la liberté de la presse en RDC. Vous allez les suivre tour à tour au micro de Guimati Tchongo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal. Est de la RDC avec cette alerte des organisations humanitaires. La situation humanitaire se détériore fortement dans cette partie, indiquent ces organisations. En Ituri, par exemple, plus de 100 000 personnes ont été nouvellement déplacées en l'espace de quelques mois, selon toujours les mêmes sources. Cette flambée de violence, notamment dans la zone de Boulé, a contraint de nombreuses ONG à suspendre leurs activités, laissant des milliers de civils sans assistance. Face donc à cette urgence, Médecins sans frontières alerte sur des besoins qui dépassent largement les capacités actuelles. Écoutons à ce sujet Albert Essoun, chef de programme adjoint de MSF en Ituri, au micro de Nancia Tambo.
En 2025, la province de l'Ituri comptait à elle seule 1,1 million de personnes déplacées internes sur environ 6 millions au niveau national, ce qui représente environ 18%. Les services de santé sont à bout de souffle. La situation médico-humanitaire en Ituri demeure critique et sous-financée. Toujours en 2025, 8 structures de santé ont déjà été attaquées, pillées ou même bombardées. Et c'est dans ce contexte que MSF a réalisé plus de 163 000 consultations. Depuis mi-février 2026, MSF a déployé une équipe pour répondre aux besoins médicaux urgents à Plein-Savo et dans ses environs. Les activités couvrant les consultations en santé primaire ainsi que la prise en charge des violences sexuelles. Depuis le lancement de cette activité, près de 5 000 consultations ont été effectuées. Il est aujourd'hui impératif que l'Ituri cesse d'être relégué au second plan des priorités politiques, diplomatiques et même humanitaire. Alors que la violence s'installe et perdure, alors que les déplacements s'intensifient et que les capacités de réponse humanitaire s'effondrent, l'absence d'engagement fort des acteurs nationaux et internationaux ne fait qu'aggraver une crise pourtant évitable.
Autre alerte, c'est celle lancée par Bruno Lemarquis pour le coordonnateur humanitaire en RDC. La crise humanitaire sous-financée est largement négligée dans cette partie du Congo et ce, ajoute-t-il, malgré des besoins immenses. Il l'a signifié hier mardi à Beni, où il est arrivé après avoir séjourné à Bunia pendant 2 jours. Il évoque d'ailleurs des millions de déplacés et un manque criant de moyens. On écoute Bruno Lemarquis au micro de Martial Papi Moukeba.
C'est une crise humanitaire qui est sous-financée, qui est un peu négligée par rapport à d'autres crises dans le monde. Ça vient d'une part de l'ampleur des besoins, parce qu'on est toujours dans des cycles de violence du fait de l'activisme de certains groupes armés, avec des déplacements multiples des populations, beaucoup de problèmes de protection, surtout les femmes et les filles. Donc il y a toujours ces énormes besoins. En ce moment, à l'échelle du Congo, ça fluctue toujours entre 6 et 7 millions de déplacés internes et de très nombreux déplacés internes dans la province du Nord Kivu. Des gros besoins, des moyens qui ne sont pas à la hauteur de ces besoins, surtout depuis les 12 derniers mois avec toutes ces grandes coupures budgétaires. En Ituri, ça dépend des zones. Il y a des zones où il y a un peu plus de stabilité. Par contre, il y a des hotspots qui continuent à poser beaucoup de problèmes, notamment à Djougou, dans la ville de Boulé. Une situation extrêmement complexe avec énormément de déplacés. Il y a un camp de déplacés. La dernière fois que j'ai visité, il y avait 21 000 personnes et en ce moment, il y en a 73 000 du fait des affrontements qui ont eu lieu entre le groupe CRP et l'armée congolaise et de très très nombreux camps de déplacés qui se sont vidés pour s'agglutiner dans ce site unique de ce qu'on appelle Plein-Savo. Donc une situation vraiment complexe dans cette zone-là.
Et puis de Ouazalendo dans les collimateurs de la société civile de Lubero dans le Nord Kivu. Cette structure accuse certains groupes armés de commettre de meurtres, tortures et autres tracasseries. Ces groupes armés dits Ouazalendo sont aussi accusés de semer la terreur au sein de la population. Dans un communiqué publié hier mardi 5 mai, cette structure citoyenne dénonce une situation sécuritaire de plus en plus préoccupante après le double meurtre jeudi dernier à Kimbulu d'un motard et de son client attribué toujours à ses combattants. Elle appelle ainsi les autorités à renforcer l'encadrement de Ouazalendo, à accélérer le désarmement et à poursuivre les auteurs de ces abus. Détail avec Martial Papimukeba.
La société civile de Lubero tire d'abord la sonnette d'alarme sur la circulation et contrôlée des armes entre les mains de certains Ouazalendo, une situation qu'elle juge dangereuse pour les civils. Son président Muhindo Tafuteni explique.
La circulation des armes dans la population, dont certains Ouazalendo sont porteurs sans aucun professionnalisme ni règlement militaire et moins encore sans notion de droit de mer, une tombe créseux avec des conséquences incalculables.
La structure citoyenne évoque également une situation marquée par de nombreuses exactions contre les civils.
Sous l'œil impuissant du gouvernement et peut-être avec complicité, certains Ouazalendo ont érigé des barrières dans plusieurs tronçons routiers à partir desquels ils rassonnent et tracassent tout passant. Ils ont établi des cachons dans leurs positions où les cas des traitements inhumains, tortures et meurtres sont signalés.
Pour l'instant, aucune réaction officielle des autorités du territoire de Lubero n'a encore été enregistrée. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Autre actualité, nous allons évoquer cette colère de certains automobilistes qui se disent être traumatisés par les contrôleurs des véhicules ici à Kinshasa. Une conductrice, vous allez l'entendre, déclare être contrôlée sans problème non loin de son habitation après avoir montré tous les documents du véhicule. Mais une fois en ville, d'autres agents l'arrêtent et lui font comprendre qu'elle n'est pas en ordre puisque la validité de ces documents a expiré après 6 mois selon les contrôleurs. Très en colère, la conductrice a rétorqué que nous ne sommes qu'au 5e mois. Elle demande par ailleurs aux autorités d'accélérer la réhabilitation des routes qui cassent les véhicules. Elle est jointe par Lévin Mwingavobo.
J'étais sur le boulevard en venant de Delvaux où j'ai été contrôlée le matin en passant au niveau du marché, non loin de la station Total. J'ai été contrôlée, tous les documents, et c'était bon pour moi. Et quand j'arrive sur le boulevard au niveau de Wangata, j'ai vu une autre équipe d'agents. Sachant que j'ai pas de problème, ils m'ont demandé de m'arrêter, je me suis arrêtée. Je donne les documents et ils me disent que la vignette de mon contrôle technique a déjà expiré. C'est une vignette où la durée, la validité du contrôle technique est de 6 mois. Mais je leur ai dit que bon, j'étais encore dans le bon. Ils me disent non, il faudrait absolument que j'aille au bureau. J'ai dit non, je vais pas aller au bureau parce que je sais que j'ai passé mon contrôle technique cette année en 2026 et donc nous ne sommes même pas encore au mois de juin, donc mon contrôle, il est valide. La chose qui nous étonne dans tout ça, c'est que ces agents n'ont pas eux tous la même manière de voir les choses, ou si je peux le dire de manière un peu plus simpliste, on dirait que chacun ou chaque point de contrôle a ses exigences. Je demanderais que si ce contrôle technique se fait, peut-être pour une première fois, il a été effectué pour une validité de 6 mois, mais c'est anormal, le contrôle technique se fasse pour 6 mois. Sur quelle route nous roulons? Ce sont ces mêmes routes qui bousillent nos véhicules, pour ces mêmes routes encore que nous devons payer, faire des contrôles. C'est quand même anormal. C'est vraiment incroyable.
Radio Capia cherchait à joindre les responsables de la ville qui ont en charge les transports pour comprendre la validité de ces documents, mais en vain. Tous étaient injoignables. Puisque nous parlons route, notez que l'Assemblée nationale examine la proposition de loi initiée par les députés Toby Kayumbi visant à modifier et compléter la loi de 1978 portant code de la route. Le texte est actuellement analysé au sein de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la participation de plusieurs experts. Selon son initiateur, cette réforme vise à adapter la législation routière aux réalités actuelles et à renforcer la sécurité des usagers. Quelles sont les principales innovations de cette proposition de loi? Élément de réponse avec Vanessa Kongolo.
Dans cette nouvelle loi portant sur le code de la route, 47 articles ont été modifiés, 51 nouveaux articles seront ajoutés au code de la route congolais. Parmi les innovations, on retrouve l'intégration de nouveaux concepts liés à la circulation routière, prenant en compte l'évolution des pratiques urbaines, la requalification des agents de circulation, accompagnée de nouvelles règles encadrant leur intervention ainsi que leur formation continue, le renforcement des mesures de sécurité routière, notamment en matière de manœuvre, de changement de direction et de comportement des usagers, l'introduction des dispositions spécifiques pour les piétons, les motards, les cyclistes ainsi que pour les tricycles, quadricycles et véhicules de transport public, la réglementation du temps de conduite et des repos dans les transports routiers ainsi que l'instauration de barrières des pluies, la révision des conditions de mise en circulation de véhicules incluant l'encadrement de contrôles techniques, l'introduction de nouvelles règles relatives au permis de conduire, enfin la révision à la hausse des amendes désormais libellées en francs congolais avec un objectif clairement dissuasif.
Et puis une réunion de concertation s'est tenue mardi 5 mai 2026 à Kinshasa autour d'un programme régional. L'initiative vise à renforcer la prévention et la résilience des communautés exposées aux catastrophes naturelles, agir là où le risque est plus élevé, agir en amont et transformer la vulnérabilité en résilience durable afin de répondre aux déplacements liés aux catastrophes naturelles, a déclaré Afa Sofi de l'Organisation internationale pour les migrations OIM lors de l'atelier. L'événement co-organisé avec par Enabel, l'OIM et l'Union européenne a permis de présenter un projet destiné à soutenir l'autonomie des populations vivant dans les zones les plus exposées. Reportage John Chibwabwa.
Plusieurs ministères et des organisations internationales ont répondu présents à ces échanges. Objectif, donner des orientations stratégiques et des contributions sur la gouvernance et les modalités de coordination du projet réponse régionale aux déplacements liés aux catastrophes naturelles. Afra Sofia de l'OIM plaide pour des réponses durables.
Les réponses ponctuelles ne suffisent plus, nécessiteront un changement d'échelle et d'approche. Le programme s'inscrit dans une conviction simple. Agir là où les risques sont les plus élevés, agir en amont, former les vulnérabilités en résilience durable, protéger les populations déplacées et développer des solutions durables, inclusives et anticipatrices aux déplacements.
Le représentant de l'Anabel appelle les participants à travailler aux côtés des autorités congolaises. Cédric Ngandou.
Le défi est immense, mais notre engagement est à sa mesure. Aux côtés des autorités congolaises et de nos partenaires, nous œuvrons pour des solutions durables, portées par les communautés elles-mêmes et alignées sur les priorités de développement local. Ainsi, nous aurons contribué à l'avènement d'un monde durable et équitable.
Tout en saluant la tenue de cet atelier, Jean-Dié Merci Moukanya, représentant le ministère des Affaires étrangères, appelle à l'inclusion et l'autonomisation des déplacés et des communautés afin de garantir des réponses adaptées aux réalités locales.
Au Nord Kivu, la passation des épreuves préliminaires des examens d'État ne se passe pas comme prévu. Elle a été suspendue mardi dans les centres de passation situés dans la localité de Remeka, groupement Oufamando Premier en territoire de Masisi. Selon des sources locales, cette situation fait suite à des violents affrontements ayant éclaté autour de cette agglomération mardi matin. Autre conséquence, les élèves ainsi que leurs parents ont fui plusieurs villages dans cette zone pour trouver refuge dans les territoires de Walikale. Plus de détails avec Lévin Mbouingavobo.
Selon plusieurs sources locales, ces affrontements opposent des éléments de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo du groupe Mai Mai du chef Noah Machano, allié au FRDC. Les détonations d'armes lourdes et légères ont provoqué la fuite de tous les habitants de la localité de Remeka. Plusieurs villes, dont Misimbira, Maïga et Kale, se sont vidées de leur population. Parmi les déplacés, les élèves finalistes qui ont simplement abandonné leur centre d'examen. La majorité de ces familles a pris la direction de Birico, dans le territoire voisin de Walikale. Nos sources rapportent qu'un élève a été blessé par balle au cours de ces affrontements. Un acteur social dans la zone regrette de voir ces affrontements éclater en pleine session des épreuves préliminaires de l'Exeta et on appelle à un minimum d'humanité de la part des belligérants. Un sentiment partagé par de nombreux parents révoltés de devoir fuir à nouveau avec leurs enfants après des mois de préparation et des nuits blanches d'études. Ils exigent que tout soit mis en œuvre pour réparer ce tort et permettre aux candidats de terminer leurs épreuves dans la dignité.
Place à présent à notre série consacrée à l'élection à la FECOFA. Nous parlons aujourd'hui du déroulement des élections au sein de la FECOFA. Vanessa Kongolo nous explique.
Les élections au sein de la Fédération Congolaise de Football Association se déroulent selon les règles bien établies à l'article 30 du statut révisé en 2022. D'abord, les votes s'est fait à bulletin secret et par liste sous la supervision de la commission électorale. Pour être élu, une liste doit obtenir la majorité absolue, soit plus de 50% de suffrages valablement exprimés. Dans ces cas, avec 68 votants, pour être élu, il faut avoir au moins 35 votes. À défaut, un deuxième tour est organisé entre les deux listes arrivées en tête. En cas d'égalité persistante, les règlements prévoient soit le recours au score du premier tour, soit en dernier ressort un tirage au sort. À noter enfin que le bulletin non valable, les bulletins vierges, les abstentions et les votes manipulés ne sont pas pris en compte dans les calculs de la majorité. Quant au calendrier électoral, les membres doivent être convoqués 45 jours avant l'Assemblée générale élective. Les candidatures doivent être déposées 30 jours avant et la liste officielle des candidats communiquée 10 jours avant la tenue du scrutin.
Actualité internationale.
Il est une figure politique majeure au Sénégal. Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais, président de la première alternance démocratique du pays à la tête de l'État de 2000 à 2012, soufflera ses 100 bougies le 29 mai 2026. Un hommage national lui sera rendu, mais sur deux autres jours.
L'invité.
Les professionnels des médias ont célébré dimanche 3 mai 2026 la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». À cette occasion, les intervenants dans l'émission « Dialogue entre Congolais » d'hier mardi ont évalué l'exercice de la liberté de la presse en RDC. On les écoute au micro de Guy Matetsongo.
Floribert Loboto, vous êtes président du conseil d'administration de la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Vous êtes également membre du comité de suivi des recommandations des états généraux de la communication et des médias. Comment vous évaluez la liberté de la presse à ces jours en RDC?
Par rapport à la liberté de la presse, c'est vrai que la précarité et la pauvreté des journalistes enlèvent une grande partie à cette liberté. C'est vrai aussi que la situation de la guerre dans l'Est de la République complique davantage l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Mais il faut reconnaître que dans l'ensemble, depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, la République démocratique du Congo a gagné plusieurs places. Aujourd'hui, selon RSF, nous avons gagné plus de 30 places. C'est déjà quelque chose à féliciter.
Lorsque vous suivez ces différents reportages que nous avons écoutés avec vous, le premier vice-président de l'UNPC revient sur la précarité dans laquelle vivent les journalistes. Et dans le Grand Katanga, on a suivi la présidente provinciale de l'UNPC qui fait, n'est-ce pas, mention de la crainte des journalistes à exercer leur métier du fait des intimidations et interpellations. Lorsque vous suivez ces tableaux sombres, comment vous réagissez?
Je réagis en reprenant les propos d'un aîné, Charles Dimanche Awembi. Charles Dimanche Awembi a dit dernièrement, le journaliste, son objectif, c'est après avoir donné l'information, il doit vivre. C'est-à-dire, le journaliste doit tenir compte de l'environnement. C'est-à-dire, quand vous donnez l'information, après que les gens aient suivi cette information-là, que vous n'ayez pas de problème. Selon que vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Goma ou vous êtes dans le Katanga. Nous, nous avons travaillé quand l'AFDEL arrivait à Kinshasa. Et là, je dois remercier les aînés avec qui nous avons travaillé, Kibambi Chintoa, Simplice Kalunga Waramba, Dimanche Awembi, mais on traitait l'information, on n'avait pas de problème. Et quand l'AFDEL est arrivé ici, on a laissé TKM travailler. parce qu'on savait traiter l'information.
Merci Alain Kabongomboui, vous êtes secrétaire exécutif de l'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique, OLPA en sigle. Quelle évaluation vous faites de la liberté de la presse en RDC à ce jour?
Oui, dans le cadre de notre monitoring depuis janvier à mai 2026, nous avons pu répertorier juste moins de 10 cas d'atteinte à la liberté de la presse. Sur les plans statistiques, en comparant à l'autre année, on peut se dire qu'il y a baisse des cas d'atteinte à la liberté de la presse sur cette période-ci. Mais est-ce que cela peut nous amener directement à conclure qu'il y a liberté de la presse en RDC? Parce que même quand les co-débatteurs a évoqué les classements des RSF, c'est sur base des chiffres statistiques. Mais sur les plans pratiques, vous constaterez que la liberté de presse est actuellement mise en péril, que ce soit dans les territoires sous contrôle de la rébellion ou dans les territoires sous contrôle gouvernemental. Et c'est pour cela que nous autres, nous constatons que les statistiques sont si moindres parce que ces gens privilégient beaucoup plus l'autocensure.
Merci Jacques Bouira Hangi, vous êtes avocat au barreau du Nord Kivu. Comment vous également vous évaluez la liberté de la presse en RDC?
Tout d'abord, je veux noter que je n'ai pas d'avancée sur l'exercice de la liberté de la presse en République démocratique du Congo sur le plan pratique, parce qu'on a tendance à croire que parce que la RDC a été cotée 130e pays sur 180 pays, parce qu'il a gagné quelques 3 ou 4 chiffres, cela veut dire que la RDC a prospéré en matière d'exercice de la liberté de la presse. Non, ce n'est pas le cas.
Qu'est-ce que vous recommanderez pour que la liberté de la presse soit exercée sans beaucoup de difficultés?
Ma première recommandation, c'est que les intimidations cessent à l'endroit des journalistes. Deuxièmement, il faudrait que le CESAC travaille et exerce effectivement les missions pour lesquelles il a été créé.
Vous pouvez continuer à suivre Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiokapi.net. Voilà qui met fin à notre journal du matin préparé pour vous par Lievine Mbwinga-Vubu et mise en onde par André Mongou. Merci et nous allons vous retrouver avec le même plaisir pour nos prochaines éditions du journal Parler.